Vous écoutez La Fabrique des Futurs, un podcast radio Agora pour tous ceux qui n'attendent pas demain pour l'inventer. À l'écoute de ceux qui changent.
Dans ce tout premier épisode de La Fabrique des Futurs, nous partons à la rencontre d'un laboratoire citoyen qui a fait de la transition énergétique son cheval de bataille. Je suis Yanis Hachemi, chargé de mission radio Agora à la ville de Nanterre, et j'ai rendez-vous pour vous avec un dénommé Cédric Carle. Cédric, c'est le fondateur du labo en question, l'Atelier 21, un générateur d'alternatives énergétiques, un laboratoire citoyen dont la démarche peut paraître étonnante. Avec leur concept propriétaire, la paléo-énergie, l'Atelier 21 prétend construire le futur en cherchant dans le passé. Dit comme ça, ça claque. Le rendez-vous est pris dans le 13e arrondissement de Paris, entre la Seine et le périph, au cœur d'un quartier qui bouge. Cédric Carle est un designer sans bouton off, une vraie pile électrique de l'énergie. Je vous aurais prévenu.
Alors dites-moi où est-ce qu'on est là tout de suite, Cédric.
Alors ici on est dans le 13e arrondissement, on est juste devant les locaux de l'atelier 21. On entend le chantier derrière, là, c'est un quartier en pleine mutation, quoi. Nous, on est là dans le cadre d'un projet d'urbanisme transitoire avec Plateau Urbain et la CEMAPA. Et du coup, voilà, en fait, on a nos bureaux ici. Et en face, sous le pont, en fait, dans les containers, c'est le lieu qui pourra accueillir le Retro Futur Museum.
Okay.
Donc, qui va accueillir la petite collection d'objets qui va permettre d'animer, en fait, sur... Ces vieux brevets qu'on retrouve dans le passé pour réactiver la transition énergétique.
Sympa. Il y a combien d'espaces là, par là-bas ?
Alors, si tu veux, tu as un espace dans deux containers collés l'un à l'autre. Donc là, on est à peu près sur un petit 50 mètres carrés. Donc okay. C'est vraiment un micro-musée, tu vois. Et puis derrière, en fait, sous le pont, là, on voit pas, mais il y a une grande salle. Et ça va permettre de faire des animations, des soirées, des tables rondes, etc. Sur le thème de l'énergie, parce que c'est un peu ça notre dada.
Ça ressemble à un beau lieu underground de type berlinois sous le périph.
C'est ça, on est complètement sur ce registre-là. Et puis on a aussi à Montreuil, en fait, on a une friche qui s'appelle Station E.
Ouais.
Et donc on pourra y aller un peu plus tard pour une autre interview peut-être.
Ouais,
mais on a du coup là-bas un container autonome équipé de panneaux solaires, d'éoliennes, etc. Et ce conteneur là-bas, en fait, qui s'appelle l'Ecolab, il est répliqué à Conakry, en fait, à l'école des arts et métiers de Conakry, en Guinée. C'est un projet, en fait, avec l'ONU, un projet à vocation pédagogique. Donc on a créé une école laboratoire, quoi, qui tient tout dans un conteneur. Et c'est les élèves et les étudiants qui l'ont fabriqué sur place.
Trop cool.
Donc voilà, on exporte notre travail jusqu'en Afrique, quoi, pour faire avancer la question des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et de la sobriété, parce qu'il y a quand même un petit peu urgence.
En tout cas, ce que je trouve cool, c'est que j'ai l'impression que la ville et l'avenir, ça se construit à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, dans cette adresse que vous avez choisie. Tout autour de nous, là, il y a des choses en construction, on a l'impression d'être au milieu, ou en tout cas au début de quelque chose. Et puis à l'intérieur, là, quand on va rentrer, vous allez m'expliquer aussi quelle mesure vous construisez aussi l'avenir.
Nous, on a un travail, en fait, qui est bien sûr intellectuel, théorique... D'ingénierie sur les questions de transition énergétique, etc. Mais en fait, moi, je suis designer industriel. Et le travail du designer, c'est d'interfacer, en fait, avec le public, avec les usages, avec le terrain, avec l'ergonomie. Donc, quelque part, on fait de l'ergonomie, de la transition énergétique. On fait du terrain, on fait des choses dans la rue, on fait des animations, on fait des sound systems, on mène des ateliers paléo, on fait Regenbox, on fait des projets sur la précarité énergétique. Nous, notre truc, c'est d'aller au plus près des publics avec ce savoir-faire, avec ces choses très intellectuelles liées à l'énergie, et de les rendre accessibles, appropriables et vulgarisées, quoi.
On rentre à l'intérieur ?
Ouais, allons-y.
Allez, c'est parti.
À ce moment-là de la visite, je suppose que vous dites exactement la même chose que moi, que Cédric Carle est un inventeur fou à l'appétit insatiable, qui débite à 1000 à l'heure, qui dort, mange et vit énergie renouvelable. Eh bien, c'est à peu près ça.
Cédric, est-ce que vous rêviez inventeur, chercheur ou physicien quand vous étiez petit?
En fait, oui. Depuis assez longtemps, en fait, on me raconte que quand j'étais petit, je démontais pas mal les objets qui étaient autour de moi, sans savoir les remonter, malheureusement. Et je pense que c'est parce que aussi, je voyais mon grand-père qui réparait des trucs à l'époque, qui m'a sensibilisé à l'obsolescence programmée, parce que comme il réparait des machines à laver, des frigos, des télés, etc., assez vite, dans les années 80, je l'entendais râler sur la non-réparabilité de certains trucs, en fait, et la fragilité et ce genre de trucs. Et donc, ouais, ça m'a tout le temps intéressé de voir ce qu'il y avait dedans, comment c'était fait, et puis de faire aussi, quoi, de réparer. Donc, ouais, ça date d'il y a un petit moment déjà. Alors, bienvenue ici. Donc, on est dans les locaux de l'atelier 21. Bonjour à toute l'équipe.
Salut l'équipe.
Salut.
Ah, Simona, Raïs, Antoine, Modou, Mathéo, Mamadou, il est là-bas. Coucou Mamadou, Jean.
Salut Jean.
Et du coup, voilà, en fait, on arrive ici donc dans les bureaux qui sont en fait stockage et aussi laboratoire, une sorte de caverne d'Ali Baba des énergies et puis des projets qu'on teste. Et là, on est devant le Solar Sound System, c'est un tricycle à assistance électrique.
Ok.
Et tu vois son toit, en fait, là, la caisse qui est devant, en fait, c'est des panneaux solaires photovoltaïques.
Ouais.
Ils sont au-dessus, tu vois, il y a des petites LED en dessous. Voilà, pour
éclairer. Il y en a combien à peu près ?
Là, il y en a juste deux ici qui sont intégrés sur la machine. Après, on peut en rajouter en fait en fonction de la puissance demandée de l'événement, de la durée de l'événement, etc. Et puis surtout, en fait, il y a, tu vois, des vélos générateurs. Et du coup, ça permet de pédaler et d'alimenter aussi le système. Donc, le système, il est alimenté par le soleil et par les gens, le public qui pédale. Et puis là, on a des platines. Et du coup, ça permet d'aller faire la fête dans des sites qui sont des fois complètement déconnectés du réseau. Des fois, il y a des maisons de quartier ou quoi, ou des festivals. Il y a quand même l'électricité, mais nous, on joue le jeu justement de l'autonomie énergétique, de faire du, comme on dit, du off-grid, quoi, du hors du réseau. Ça permet de faire une démonstration un peu sensorielle, pratique, parce que quand tu pédales sur les vélos, ça fait monter des rampes de LED. Et du coup, voilà, tu peux voir un peu l'énergie que tu fournis au DJ. Tu peux voir ce que consomme le DJ. Tu peux voir ce que fournit le soleil. Donc, c'est un peu une porte d'entrée, un peu sur une expérience énergétique pour une première compréhension des systèmes autonomes.
Et avec ce dispositif, tu peux envoyer du son sur quel espace, quelle superficie ?
Alors, c'est ultra puissant. En fait, on a des systèmes qui sont très efficaces en énergie parce que c'est quand même un peu le secret de l'énergie, quoi. C'est de moins consommer possible. Donc, on a des enceintes ultra efficaces en énergie. Donc, c'est l'équivalent de 2 fois 1000 watts, quoi. C'est 2 kilowatts de son,
ah ouais,
avec ce petit système. Ça, c'est ce qu'on prend parce que c'est largement suffisant pour tous les événements qu'on fait. Tu peux sonoriser pour 500 personnes facilement. Et puis, des fois, on a fait des montages où on assemble plusieurs sound systems ensemble parce qu'on en a plusieurs. Et on fait, par exemple, la technoparade. Et du coup, là, une fois, on a monté jusqu'à, sauf erreur, 8 kilos de son en façade. C'était ultra impressionnant. Ça démonte tout, quoi. C'est
avec
vraiment...
une armée de cyclistes.
Avec, y avait uniquement 4-5 cyclistes, mais beaucoup de panneaux solaires. Donc en fait, on module suivant les demandes. Et puis là, tu vois, il y a un autre vélo, un tout petit. Alors ça, c'est plutôt pour les critical mass pour les kids, ou les parades à vélo. Tu vois, en fait, hop, petit système, il y a une petite enceinte.
Ok.
Puis c'est un petit tricycle. Et puis alors, c'est moins puissant, mais ça fait assez de bruit pour faire de l'animation dans la rue, quoi.
Et vous avez fait quel type de soirée, par exemple, avec le Solar Sound System ?
Alors, le Solar Sound System, c'est un projet qui est assez ancien. On a lancé ce projet en 99 à Lausanne, parce que moi, j'ai fait une partie de ma carrière en Suisse romande. Et après, on a ouvert des antennes. Donc, on a ouvert Lausanne, puis Zurich, Paris, Berlin, Pays Basque, Marseille, Tel Aviv et Hong Kong. Et avec le Covid, on s'est arrêté parce qu'on avait plein de demandes qu'on avait, voilà, mis de côté, quoi, un peu dans pas mal de pays. Et là, on est en train de reprendre un peu le truc parce que voilà, le Covid il est un peu derrière. Et là, le prochain sound system qu'on va faire, c'est en Bolivie. Et du coup, c'est super parce qu'on a déjà les premiers financements, voilà, des soutiens qui souhaitent voilà, développer ce projet en Bolivie. Donc, c'est plutôt chouette.
Et donc ça, c'est l'un des premiers projets de l'atelier 21 ?
Ouais, ça a été un des premiers projets qui, du coup, souvent ce qu'on dit, c'est la FED qui finance la recherche. Effectivement, c'est un projet qui nous a permis de drainer des fonds et des financements pour aller après financer des projets qu'on voulait faire nous, sur lesquels on sentait qu'il fallait prototyper et se lancer. Et voilà, c'est un peu notre cheval de Troie, quoi. C'est ce qui nous a permis de lancer pas mal d'autres projets à côté.
Question random, mais vous êtes un fada de musique électronique ou rien à voir ?
Alors, j'aime bien la musique électronique, mais pas que. Moi, je collectionne les disques depuis super méga longtemps, les vinyles. Je me suis un peu calmé parce que ça prend trop de place. Et on a vraiment, en fait, le statut de music lover, quoi, mais de manière très large, quoi. Reggae, raga, rap, musique électronique, rock, rock indé, jusqu'à la musique classique, les musiques traditionnelles aussi. Il y a des trucs qui sont absolument géniales. La cumbia, moi, j'adore particulièrement. Et puis, donc, en fait, si tu veux, donc ça fait 20 ans qu'on fait des soirées, donc on a quand même bossé avec beaucoup de DJ, beaucoup de labels, etc. Surtout bah, les antennes, chacun fait ses soirées dans son coin avec ses réseaux, etc. Et en fait, ça a généré aussi toute une communauté d'artistes, en fait. Et on a créé une web radio alimentée à l'énergie solaire. Mmh. Donc c'est radio3s.org. Et cette radio, en fait, elle est co-curatée, en fait, co-programmée par toutes les antennes et par plein de labels et de DJ, de jeunes producteurs qui nous envoient des démos. Et donc, c'est une radio sur laquelle il n'y a pas de pub. Web radio H24 en fait, et y a aussi des mix, des podcasts, des mix qui sont faits sur les solars. Et du coup, voilà, ça, en fait, la radio, elle permet, si tu veux, d'échanger des contenus culturels entre les gens qui sont à Hong Kong et puis ceux qui sont à Tel Aviv et puis ceux qui sont à Berlin et puis nous à Paris. Ça supporte aussi des jeunes artistes, en fait. Mmh. Donc, on reçoit plein de démos de jeunes producteurs et tout. Et c'est des bonnes surprises parce que du coup, on reçoit des trucs aussi des États-Unis, du Japon, de Russie, de Nouvelle-Zélande, enfin d'un peu partout. Déjà, fin des années 90, il y a quand même pas mal de gens qui parlent de changement climatique. J'ai eu la chance de travailler à Lausanne. Puis j'ai bossé sur une scénographie et j'ai rencontré une chercheuse du GIEC qui s'appelle Martine Rebetet. Et du coup, j'ai pu vraiment rentrer, ça c'était en 2001, sur la question du changement climatique avec une experte du climat qui t'explique. Et du coup, c'est pas des flyers, c'est pas une exposition, c'est pas une émission de télé, c'est des gens qui vraiment sont des scientifiques, qui font de la recherche et qui du coup te racontent ça avec leurs mots et avec leur vérité, en fait. Je te propose d'aller voir la Paléo Énergie parce que du coup ça c'est un projet en fait qui nous semble hyper important. Pourquoi ? Parce que nous on travaille depuis pas mal d'années sur les questions d'innovation énergétique, de transition écologique, etc. Donc en tant que designer et ingénieur, on a cherché aussi beaucoup de solutions avec des collectivités, des fois des entreprises. On a essayé d'imaginer des nouveaux systèmes, etc. Et puis, en travaillant dans cette branche et notamment en travaillant avec des personnes un peu âgées, on a compris deux choses. C'est que d'une part, il y avait pas une grande ressource qui réunissait toute l'histoire des brevets et des innovations énergétiques, biogaz, énergie solaire, véhicules électriques, géothermie, et j'en passe. En fait, tout des fois, il y a des branches un peu thématiques, donc tu as un bouquin sur peut-être l'histoire des maisons solaires, tu vois. Et du coup, nous, on s'est dit, en fait, et pour cette raison-là, et pour le fait qu'il y a énormément de choses qui sont pas forcément même dans les bouquins, mais qui sont des fois dans des articles de presse d'époque, par exemple, Seconde Guerre mondiale, crise du pétrole dans les années 70, il y a plein de gens qui font plein de trucs. Pourquoi ? Parce que il y a pas de pétrole, et donc, dans ce cas-là, il faut des idées. Et donc, ça fait que sur les territoires, il y a plein de gens qui se mettent à fabriquer des trucs eux-mêmes et qui sont des alternatives intéressantes et qui, dès que la crise redisparaît,
on les oublie.
On les oublie. Voilà, le pétrole, le charbon redevient abondant, on s'y remet. C'est vrai que c'est plus simple, c'est plus facile. Il y a peut-être une facilité d'usage qui est un peu différente. C'est vrai que les énergies renouvelables, c'est des dispositifs à mettre en place et puis elles sont intermittentes, etc. Mais c'est vrai que vers quoi on se dirige, en fait, problématique climatique, problématique de ressources, on va devoir faire avec ces contraintes-là et on va devoir réhabiliter un certain nombre de techniques d'énergie renouvelable et puis de, de stockage et puis aussi de sobriété en face pour arriver à joindre les deux bouts. Donc, c'est important de se dire, on va faire plein d'énergie renouvelable pour remplacer tout ce qu'on consomme maintenant. Ça, ça ne marche pas. Mathématiquement, il n'y a pas assez de métaux, il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a pas assez même de gens qui assemblent les trucs, tu vois. Il ne suffit pas d'avoir des bonnes idées, de se dire, ah, on va faire ça. Il faut que derrière, il y ait l'argent, le savoir-faire et puis bah, les usines, les gens, si tu veux, qui font fonctionner le truc. Et donc, il faut qu'on réduise, nous, la voilure, il faut qu'on soit plus sobre. Et ça, heureusement, maintenant, c'est un peu admis. Et la guerre en Ukraine a été aussi un accélérateur. La sobriété, c'est enfin admis au plus haut sommet de l'État et de l'ONU et de plein de décideurs et tout qui disent oui, il faut être plus sobre. Donc, ça va toucher sur un mot qui s'appelle la décroissance, qui est un peu un mot, oulala, tout de suite, ça fait peur à tout le monde. Mais effectivement, on n'a pas le choix, en fait. Il faut qu'on réduise la voilure et que de l'autre côté, on produise plus efficacement et avec plus d'énergie renouvelable. Depuis ce moment-là, je me suis concentré sur les questions énergétiques, mais aussi sur les questions de mode de vie, parce que en fait, la moitié de nos impacts, c'est l'énergie grise. Donc c'est l'énergie qu'on ne voit pas. C'est l'énergie, c'est pas celle d'EDF dans la prise de courant, c'est pas celle de la voiture quand je fais le plein à la pompe à essence, c'est pas celle du voyage quand je pars en train au bord de la mer. C'est l'énergie qu'il y a dans le jean que je porte, le téléphone que j'ai acheté, l'eau que je bois, le café, parce que le café il a été transporté, torréfié, voilà, tout ça, ça utilise de l'énergie. Donc tout ça, c'est l'énergie grise. Et ça, c'est aussi de l'écologie pratique, parce que ça veut dire que quand tu comprends l'énergie grise, donc tu comprends qu'il faut mieux consommer de saison et local. Donc, si tu compares l'agneau d'ici et l'agneau de Nouvelle-Zélande, bon bah il n'y a pas photo en fait. C'est comme la haricot vert de Chine ou l'ail de Chine versus l'ail qui vient d'Aix-en-Provence. Tu peux agir tout de suite sur ton panier en fait alimentaire. Tu peux choisir de réparer des téléphones, de donner une seconde vie à des objets. Et ça c'est 50% de nos impacts. Et en fait c'est très peu connu en fait. Donc ça a été un peu notre cheval de bataille pendant des années, c'était de parler d'énergie renouvelable, bien sûr, mais aussi de parler de notre consommation et de notre mode de vie, parce que c'est là que sont les solutions aussi, quoi. Et donc le projet, bah, en fait, on l'utilise. Alors, donc c'est un site web, paléo-energetique.org, où on met en ligne bah, toutes ces inventions là, depuis plusieurs années. Mais aussi, c'est cette frise que tu vois ici devant, là, qui est sur 5-6 mètres de long, avec des petits cartels à chaque fois. Le principe éditorial, chaque fois, une belle image, un tout petit peu de texte. Et puis bah, là, en fait, on voit l'invention de la batterie solaire chez, dans les laboratoires Bell. On est dans les années 50. Ici, on voit les murs à pêche de Montreuil, qui sont des techniques pour faire pousser des pêches en banlieue parisienne. Parce qu'à l'époque... les pêches venaient du sud et il n'y avait pas de train qui allait assez vite pour qu'elles arrivent en bon état. Et donc, c'est des murs à inertie en fait, qui permettaient du coup d'avoir un climat, une sorte de serre, si tu veux, pour les pêches, pour les faire pousser à Montreuil. On a des pépites comme la fameuse Jamais Contente. C'est la première voiture électrique qui dépasse les 100 km/h. On est en 1899.
Ça n'a pas l'air hyper sécurisé. Hein.
Ça a l'air un peu d'un obus monté sur des roues, effectivement. Et puis le monsieur, il n'a pas de casque, en fait. C'est pas très
prudent. Il dépasse de l'obus.
C'est ça. Il ne faut pas qu'il se retourne. Et puis, on a des camions à hydrogène dans les années 50. On a plein de véhicules électriques qui sont apparus dans les périodes de tensions énergétiques. Maria Telkes, qui est une physicienne américaine qui a fait des maisons solaires dans les années 30. Y a pas mal de trucs intéressants là. Tu vois, tu as la voiture à hydrogène de Jean-Luc Perrier. Lui, à l'époque, il est enseignant du côté d'Angers, à l'Université catholique d'Angers. Et en fait, il va mettre au point cette grande parabole solaire qui va concentrer les rayons, qui va craquer de l'eau pour fabriquer de l'hydrogène. Et il va faire rouler une voiture, une Simca 1000 à l'époque. Il faut savoir que les moteurs thermiques, tu peux assez facilement les transformer pour qu'ils deviennent gaz et hydrogène. Donc, c'est du coup de l'hydrogène en combustion directe. Et du coup, bah, ça marche très bien. Donc, c'est très aussi, c'est basse technologie, dans le sens où aussi tu rétrofites ta voiture, tu réutilises la voiture existante. Donc, On voit, il y a pas mal d'exemples sur l'hydrogène où quand vraiment il y a des grandes disettes de pétrole et tout, l'hydrogène sort et redisparaît parce qu'après, du coup, tout redevient pas cher, etc. La paléoénergie, on peut dire que c'est la recherche des pratiques anciennes sur qui utilisent de l'énergie. Donc c'est toutes les méthodes pour se déplacer, pour faire cuire des aliments, pour refroidir des maisons, pour éclairer. C'est en gros tout ce qui va remplir ces fonctions-là. On a inventé ce mot parce qu'il n'existait pas. Et on est parti sur paléo-énergétique parce que bon, déjà ça ne sonnait pas trop mal. Et qu'il fallait qu'on explique que justement l'idée c'était d'aller chercher dans les usages un peu disparus et dans les inventions un peu disparues des bonnes idées pour les réactualiser.
Et là, il y a un truc qui m'attire aussi, ouais, sur tous ces panneaux qu'on voit là, toute cette frise, c'est que sous chaque image qui décrit l'invention, ouais, il y a écrit « exhumé » par Marianne Henkel, par Cédric Carle, par toi-même, mais aussi par plein d'autres personnes, ouais, que je ne connais pas.
André Roche, en fait, Pierre-Antoine Gombeau. Tout ça, c'est la communauté de gens qui ont participé à cette recherche collaborative. C'est-à-dire que, Yanis, peut-être dans ta famille, il y a ton grand-père qui faisait rouler son Solex à l'alcool de betterave. Et puis, bah, si tu nous racontes ça, on trouve un visuel, peut-être une photo de ton grand-père à l'époque, ou alors on reconstitue, on crée une iconographie, et on raconte l'histoire et on mettra exhumé par Yanis, en fait. Parce que du coup, l'idée, c'est qu'on s'est dit que nous, on n'était pas assez forts pour tout connaître et que justement, en allant à la rencontre des gens, des habitants, des territoires, on dit aussi des territoires linguistiques parce que notre projet, il est traduit en japonais, espagnol, arabe, allemand, et bref, on veut faire toutes les langues parce qu'on l'a aussi exposé dans pas mal de pays à l'étranger, notamment pendant les COP. On est souvent invité à l'étranger pendant les COP, mais pas que. On a été invité à Riga, en Angleterre, plusieurs fois, pour exposer ça, pour faire une conférence, et puis pour faire parler les gens, et puis surtout animer un atelier. Où l'idée de l'atelier, c'est que tu vois, en fait, tu as un immense panorama de plein de solutions qui ont existé, qui ont été faites à peu de frais, qui sont souvent low-tech, donc très basse technologie. Et l'idée, c'est de d'écrire après la suite, en fait, 2020-2050. Mais ce panorama-là, il montre qu'il y a plein de solutions possibles et que dans plein de périodes de crise, il y a eu des gens qui ont trouvé des solutions, etc. Donc, il y a plutôt un discours positif, si tu veux, dans la capacité de raconter un récit, une trajectoire, parce que des fois, on s'aperçoit que l'enjeu est tellement énorme, on doit changer vraiment de système assez vite, en très peu de temps. C'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup d'argent et aussi... souvent on se dit ça va pas être possible en fait, comment on va faire, quelle technique on va utiliser, il faut réinventer des techniques, etc. Là ce qu'on montre c'est que non, en fait il faut se servir dans le passé et dans des brevets qui sont des fois oubliés et d'autres qui sont pas oubliés mais qui sont dans le domaine public, et c'est ça leur plus gros problème, c'est que la machine capitaliste n'arrive pas à s'en emparer parce que si t'as pas de brevet tu peux pas faire des bénéfices derrière et tu vois, tu peux te faire copier et donc voilà. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'au contraire, en fait, c'est une formidable opportunité pour pouvoir partager du savoir, ouais, avec plein de territoires et donc d'accélérer la transition énergétique. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas un monopole qui va mettre la main sur le camion à hydrogène, non, c'est que peut-être plusieurs écoles d'ingénieurs, ouais, une ici, une à Tunis, une... à Oran, une autre à Glasgow, va se mettre à bricoler le truc, va s'échanger des techniques, va améliorer le truc, voilà, et va créer peut-être des emplois locaux. Donc ça ne veut pas dire que ça ne crée pas de valeur.
Au contraire, c'est créateur de business en même temps que c'est créateur
de micro-business, exactement. Ouais, tout à fait, tout à fait.
Et il y a combien de contributeurs aujourd'hui dans la famille Paléo Énergie ?
Je pense qu'il y a, je crois que c'est à peu près 200 ou 300 personnes qui ont participé, qu'on envoyait des trucs, qui interagissent, d'autres de manière plus ou moins régulière. Après, on a rencontré énormément de gens sur les déjà 50 ou 60 ateliers et expos qu'on a pu faire. On reçoit plein de trucs via les réseaux sociaux aussi, parce que les gens, du coup, voient passer un truc, ils nous pingent dedans, et du coup, tac, 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 ça fait des liens un peu organiques, tu vois, avec toute une communauté. Et puis, des inventions, bah, on en a en tout cas 300 ou 400 dans nos tiroirs. Il y en a plus de 120 en ligne. On a sorti un bouquin qui s'appelle « Rétrofutur, une contre-histoire des innovations énergétiques
ouais. ».
Qui va être réédité en septembre parce qu'il était épuisé.
Tu me le montres ?
Ouais, bien sûr. On peut aller voir le bouquin. Et ici, il y a sa version japonaise. Ça, c'est sa version française. Donc, c'est Rétrofutur, une contre-histoire des innovations énergétiques, dans laquelle bah, on a sélectionné un peu certaines inventions. On n'a pas tout mis, parce qu'on a un nombre de pages limité. Et surtout, en fait, il y a des intermèdes avec des chercheurs connus de notre communauté, du coup, qui ont écrit des petits textes très courts sur des sujets. Donc là, pour un observatoire national du stockage énergétique. En gros, ça, c'est l'idée de créer un observatoire de la performance des batteries.
C'est des sortes de manifestes, en fait, écrits par différents chercheurs.
Exactement, tout à fait. Tu as un manifeste sur la mobilité avec Arnaud Passalacqua, qui est un immense chercheur en mobilité en France. Et lui, carrément, il dit la marche, un système de déplacement d'hier à demain. En gros, il dit qu'il ne faut pas oublier les marcheurs. Parce que c'est beaucoup de la mobilité en fait qui est parcourue chaque année, c'est aussi à pied. Donc, quand on parle de mobilité en général, c'est les mobilités alternatives, etc. Mais on oublie la marche en fait. Donc lui, il est revenu un peu aux fondamentaux. Là, il y a Alice Audouin qui est spécialisée dans les questions d'art et d'écologie, avec laquelle on interagit, et elle a écrit de l'énergie dans l'art contemporain. Donc, c'est tous les artistes qui s'emparent de ces questions d'écologie. On en a besoin aujourd'hui, hein, en termes de nouveaux récits, tout ça, on bosse, nous, vachement là-dessus. Mm-mm. Parce que, du coup, dans l'équipe, on est composé de d'artistes, de scientifiques, de designers, et du coup, on travaille beaucoup sur comment raconter différemment les choses. Tu vois, le son de système, on fait la fête. Paléo, c'est une chasse au trésor collective. Avec Regenbox, on s'amuse à trier des piles, puis on en gagne, en fait. Donc, l'idée, c'est de trouver des mécanismes et des mécaniques qui font que qu'on y trouve...
Ils sont presque ludiques, en fait.
Ouais, c'est ça, puis qu'on y trouve son compte assez vite, en fait. C'est ça, l'idée. Tu vois, là, il y a un super article fait par deux prospectivistes sur la question du design fiction. Olivier Watley et Charles Mainviel. Y a un article aussi sur l'histoire... des avions électriques, de l'aviation électrique, de l'aviation bas carbone. Donc ça, c'est une thématique qu'on a même déclinée. On a fait un site spécial qui s'appelle aero.paleoenergetique.org dans laquelle on parle de l'histoire des vols bas carbone. C'est-à-dire que la grande prise paléo-énergétique, c'est tous les sujets ensemble. Et puis après, il y a un site sur la question du stockage énergétique, un autre sur les vols bas carbone. On risque d'en faire un prochainement sur ce qu'on appelle les véhicules à intermédiaire, tout ce qui est petits véhicules entre le vélo et la voiture. On avait un projet d'en faire une spéciale sur l'hydrogène aussi à un moment donné. Donc en fait, on thématise aussi suivant les gens qui nous invitent, puisqu'on fait des ateliers aussi avec les entreprises. On a fait des ateliers avec des constructeurs comme Groupama Immobilier, SNCF Immobilier. On en a fait avec GRDF, en fait, où du coup on thématise. Donc là, c'est plutôt la construction, comment refroidir les bâtiments, comment chauffer les bâtiments. Chez GRDF, c'est plutôt l'histoire du biogaz et l'histoire de l'hydrogène, tu vois. Parce que chez eux, c'est un peu des directions qui sont en train de prendre au niveau des réseaux. Donc à chaque fois, en fait, il peut y avoir on peut décliner des thématiques. La dernière thématique qu'on décline, qui n'a pas encore vu le jour, mais. Ça ne saurait tarder, c'est sur l'eau. Donc, c'est l'idée de faire paléo H2O. Et en gros, on va faire la même chose que sur l'énergie, mais sur l'eau. Et donc, on va récolter énormément de bonnes idées pour pomper l'eau, la distribuer, l'épurer, soulever des questions de gouvernance, etc. Voilà. Et puis, il y a surtout un sujet qu'on a travaillé. On a sorti d'ailleurs un ouvrage. Et ça date de fin 2022. C'est Rétrofutur, une autre histoire des machines à vent. Et là, c'est suite à la rencontre avec un expert sur l'histoire des éoliennes et des éoliennes. Et tu vois, c'est carrément, on va dire, 200 ans d'innovation sur l'éolien, avec aussi justement des textes en travers. Par exemple, c'est un article qu'on a fait, nous. On est allé interviewer tous les territoires qui avaient fait de l'énergie et de l'éolien citoyen. Et on constate qu'effectivement, dans ces cas-là, les gens, ils en veulent d'autres et ça se passe bien. Il n'y a pas d'éolien bashing dans ce cas-là, parce que tu as des impacts, mais tu en retires des bénéfices. Donc, c'est aussi pour montrer qu'il y a plusieurs manières de peut-être faire changer nos paysages énergétiques et l'acceptabilité des éoliennes ou de systèmes qui prennent de la place, que ce soit des parcs photovoltaïques ou des éoliennes ou d'autres dispositifs. En fait, c'est vrai que ça change le paysage. Ça crée forcément des impacts. Il n'y a pas d'énergie magique renouvelable. En fait, ça n'existe pas. Par contre, il y a une nécessité d'agir. Il ne faut pas qu'on s'enferme dans des « non, l'éolien, c'est nul », etc. Il y a peut-être des projets éoliens qui ne sont pas bien ficelés, où il n'y a pas de bonne consultation, où il y a des vrais impacts, etc. Mais il y en a plein qui fonctionnent bien. Donc, c'est juste, il ne faut pas oublier aussi ça. Et la France, elle a un potentiel éolien qui est immense. Donc, j'ai envie de dire, ne gâchons pas cette opportunité.
La paléoénergie a donc de beaux jours devant elle. En tout cas, Cédric Carle en est convaincu. Je pourrais vous parler de la Regenbox, une boîte à monter soi-même pour recharger des piles non rechargeables et ainsi lutter contre la pollution des sols et la surconsommation de piles. Mais je préfère vous inviter à venir la découvrir chez nous à l'Agora, au 20 rue de Stalingrad à Nanterre. En attendant, j'ai demandé à Cédric de nous sélectionner une invention exhumée grâce au travail collaboratif de recherche de l'atelier 21. Toutes les autres inventions sont à retrouver dans son livre. Écoutez sa réponse.
Alors, s'il fallait en citer une, c'est un peu notre chouchou. C'est lui qui fait l'objet de la couverture du livre Rétrofutur. Tu vois ici une immense parabole solaire. Donc, c'est en gros des miroirs qui concentrent l'énergie sur un tube noir qui est au milieu, là, qui du coup va faire monter en vapeur de l'eau. Et à l'époque, il va. Donc, on est en 1850-60. Il va réussir à faire fonctionner une machine pour fabriquer de la glace grâce à l'air comprimé. Donc la vapeur, donc le soleil fait de la vapeur avec de l'eau. La vapeur est transformée en mouvement mécanique qui compresse. Voilà. Et la compression va générer du froid et va faire des pains de glace. Donc il y a à un moment donné, ils utilisent l'énergie solaire pour fabriquer des pains de glace. Et on est dans les années 1880, Expo Universelle. Et puis une autre application à l'époque, ils vont, tu vois, faire marcher avec la machine à vapeur. Là, ils alimentent une presse solaire. Donc, ils vont imprimer des journaux à l'énergie solaire. Ça, c'est une gravure du Jardin des Tuileries en 1882. Et l'idée du projet aussi, c'est d'exhumer, de retrouver un patrimoine qui pourrait disparaître. C'est-à-dire que peut-être que quelqu'un a... dans son grenier, un des journaux qui a été imprimé à l'époque. Et donc du coup, tu vois, ça c'est un petit avis de recherche qu'on remet quand on fait des conférences. Et on explique que nous recherchons un exemplaire du Soleil Journal imprimé en 1882 grâce à l'énergie solaire. On est sûr qu'ils ont imprimé à peu près 300-400 journaux par heure pendant 2 jours. Donc tu comptes 5-6 heures d'ensoleillement par jour, donc ça fait plusieurs milliers d'exemplaires. Donc on est persuadé qu'il en reste peut-être un quelque part qui est planqué dans un grenier.
Il n'y en a pas à la BNF ?
Alors à la BNF, en fait, il faudrait qu'on puisse avoir un étudiant un peu spécialisé qui consacre un peu du temps pour aller chercher. Parce que si tu veux, en fait, les journaux, c'est ce qu'on appelle des éphémères. C'est classé par année, donc c'est des immenses casiers. Donc 1882, c'est un casier que peut-être tu mets un mois et demi à éplucher, tu vois, pour peut-être retrouver à un moment donné le journal qui va sortir comme par magie. Donc nous, c'est un chantier qu'on ne peut pas se permettre, malheureusement. On ne peut pas trouver ça. Et avis aux gens qui voudraient faire un petit chantier de recherche dans le cadre de leurs études, parce que je pense qu'il y a moyen qu'on puisse le retrouver.
Vous n'avez pas vu Mirza ? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza. La 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 la. pas vu Mirza. Oh là 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 là. Ouais, donc passer ce chien.
Pour finir ce premier épisode de la Fabrique du futur, j'ai posé à Cédric Carl une ultime question. Comment parler de l'atelier 21 simplement ? Écoutez sa réponse.
C'est une association qui travaille du coup avec plein de communautés, plein de gens autour, qui collaborent avec des entreprises et des collectivités qui se posent aussi des questions de transition écologique. Et donc, on essaye de résoudre ça de manière collective avec eux, en accompagnant, en faisant des fois du consulting, des fois des études, des fois des animations, des fois des ateliers paléo. Pour qu'on puisse être tous en mesure de un peu comprendre comment agir et aussi quels moyens on met derrière et à quelle vitesse. Le projet Solar Sound System, il se développe à une échelle internationale et on reçoit plein de demandes pour faire plein de collaborations. Donc on n'est pas assez même pour répondre à la demande. Le projet paléo-énergétique aujourd'hui, en fait, il est aussi dupliqué, comme je vous disais, sur le paléo H2O et puis... c'est pareil, en fait, il y a de plus en plus de demandes de comprendre ce que c'est les low-tech et puis d'avoir un récit positif sur le fait que les solutions sont là et qu'on a juste à se servir. Et puis, le projet Regenbox, il est de plus en plus pareil demandé parce que petit à petit, on améliore la capacité des gens à comprendre comment s'en emparer et comment nous on peut fournir aussi de plus en plus ce service à plein de gens. Typiquement, la Regenbox a monté soi-même là, qui permet aussi de dataloguer les piles. On l'a envoyé dans beaucoup de Fab Labs et d'écoles d'ingénieurs en Afrique francophone pour qu'ils puissent avoir cet outil, parce que c'est en même temps un outil pédagogique, parce que du coup cet outil il est hyper utile pour tout ce qui est GE2I ou même pour les collèges en classe technique. Pourquoi ? Parce que du coup tu as de la soudure, tu parles d'une problématique écologique du stockage, comment tu t'évalues en fait un système de stockage ? En fait, grâce au datalog, tu fais faire à ta pile des cycles que tu enregistres. Et puis, une fois que c'est construit dans le Fab Lab ou l'école d'ingénieurs, en fait, c'est un truc que tu peux mettre en commun dans l'Agora ou à la bibliothèque ou quoi. Et du coup, qui rend service à tous les gens de l'établissement. Donc, c'est en même temps un truc, c'est pédagogique. Donc, tu apprends et en même temps, à la fin, t'as le résultat, c'est un truc que tu mets au service de la collectivité et du groupe. Donc, on le partage à très, très large échelle. On a des demandes aux États-Unis, en Inde. Donc la France, c'est un milliard d'unités à l'année, mais le marché mondial, c'est un truc de dingo. Donc, assez vite, dès qu'on va pouvoir trouver des partenaires en Allemagne, on va le faire. Et puis, après, plus loin. Et puis, pourquoi pas les États-Unis. Et puis, en Inde, il y a déjà des gens qui nous demandent. Et là, on a reçu un monsieur qui est venu nous voir d'Algérie avant-hier. En janvier, c'était un enseignant de Yaoundé, au Cameroun, qui travaille sur la pollution des eaux de surface et qui est tombé dingo sur la question de la pile parce que y a pas de... donc aux États-Unis non plus, il n'y a pas de système de collecte. Donc ça veut dire que les piles viennent polluer ton environnement et directement l'eau... Donc c'est une question de santé publique aussi, quoi. Du coup, c'est important. Nous, notre enjeu, c'est d'arriver à changer d'échelle et puis à trouver de plus en plus de partenaires. Donc, avis aux partenaires potentiels et aux partenaires et aux mécènes, parce qu'il y a énormément à faire. Et puis, aujourd'hui, la demande, elle est là, quoi. Il y a du besoin aussi, ouais. La situation, elle est... beaucoup de scientifiques parlent de chaos climatique. Là, on se dirige plutôt vers les 4 degrés, apparemment. Ça va faire mal. Ça va secouer les copains. Donc, il faut s'y mettre, il faut se relever les manches. Mais du coup, on peut le faire dans la joie et la bonne humeur. Et en fait, c'est ça le truc. C'est que moi-même, je pense que je suis un peu un éco-anxieux, pour être honnête, depuis longtemps, et que j'ai trouvé dans l'action et dans une forme peut-être d'activisme ou d'activité un moyen de canaliser ça et de se dire « Mais non, mais on peut y arriver, quoi, en fait. » Et on est de plus en plus nombreux, de plus en plus à se relever les manches, de plus en plus à se dire, il y a des trucs à faire. Et puis, ça permet d'être dans l'action et puis d'être de donner du sens à ce qu'on fait, quoi. Donc c'est en même temps réjouissant et puis plein d'optimisme, en fait. Et même si des fois la situation claire sur l'eau, le changement climatique, les problématiques agricoles et les réfugiés climatiques, tout ça, ça va pas du tout rigoler. Mais en attendant, on œuvre à essayer de trouver des solutions.
Merci Cédric.
Je vous en prie, merci à vous. Et puis à très vite à Agora à Nanterre. C'est ça. Et puis moi je passerai avec mes piles aussi parce que j'irai tester la borne. À bientôt.
À bientôt.